Sure. Because I love music. It's in my head. I can't get it out.
Here we go with Miles Davis and the quintet from Birdland with...
Hey, George. I might leave out number letter F, you know? I might leave out all this part.
The controversial Miles Davis. We call him controversial because some people like him, some people don't.
Donc aujourd'hui, on va retrouver Miles à la fin de l'année 47. Il est toujours avec Charlie Parker et on va assister donc à la séance du 21 décembre 1947, composition du groupe, je rappelle, Miles, Charlie Parker, Duke Jordan, Tommy Potter et Max Roach. On va donc attaquer avec un morceau très rapide qui est tout simplement Klaus Tanz. Donc Charlie Parker, donc en fin 1947 avec Miles Davis. Alors c'est vrai qu'à cette époque-là, Charlie Parker, c'est un peu l'idole de tous les musiciens, surtout les jeunes. Et parmi eux, il y a donc un tromboniste qui fera une carrière non négligeable, Jimmy Knepper. Il va donc déclarer quand Bird est revenu, parce qu'il était donc en Californie, et il vient de rentrer après son séjour à Camarillo, il vient donc de rentrer à New York, tous mes amis musiciens étaient subjugués par lui. Nous ne voulions écouter personne d'autre. Même la musique de Dizzy nous paraissait stupide. Tous semblaient des enfants s'amusant à ce jeu dont Parker était vraiment le maître. Tous ceux qui avaient fait partie des premiers enregistrements en 1945 semblaient être des débutants. Ce n'est que bien des années plus tard que j'ai pu apprécier ce que Dizzy et les autres avaient pu réaliser. Jimmy Knepper, lui, à l'époque, il fait partie d'un groupe, un tout petit groupe sur la côte ouest. Il est en compagnie donc d'un joueur de boogie qui a pour nom eh bien Freddy Slack. Il tient donc bien sûr le trombone et on va l'écouter, vous verrez la différence nette qu'il peut y avoir entre la musique donc, de Charlie Parker et celle qui se fait là-bas, qui en fait, les boogeymen, on va dire, ont voulu adapter à la fois et le rhythm and blues et quelques séquelles donc, de bebop dans l'enjeu, Freddie Slag, avec donc ce titre, Bebop Boogie. Et voilà, c'était donc Freddie Slag avec notamment Jimmy Knepper, fervent admirateur donc de la musique de Charlie Parker. Alors, s'il est vrai que les musiciens adoraient Charlie Parker, évidemment le public n'était pas en reste. Ce n'était pas n'importe quel public, c'est ce qu'on appelait les hipsters. C'est-à-dire, c'était les gens branchés. Le plus connu d'entre eux, évidemment, ce sera Dean Benedetti qui va enregistrer Parker partout. Partout, il va pouvoir enregistrer, il va le faire. À la différence près que, alors que certains vont enregistrer Parker, mais la prestation complète de l'orchestre, Dean Benedetti, lui, il va se trimballer avec un matériel qui pesait à peu près 30 kilos à l'époque. Il va s'installer souvent dans les toilettes du club et il ne va enregistrer que Parker. C'est-à-dire que tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Ce sera donc des enregistrements assez particuliers parce que, évidemment, ça représente vraiment un document pour l'histoire, si on peut, et notamment pour lui. Mais autrement, c'est un peu dommage de savoir qu'à côté de Jam Session, où Parker se retrouvait à côté quand même de musiciens comme Man Hawkins et Coltor, eh bien lui non, il s'en moquait complètement. C'était Parker, rien que Parker. Alors malgré tout, on va terminer cette séance, continuer pourtant cette séance de décembre 47, avec un thème qui a pour titre Bird Get the Worm, et c'est tout simplement non pas quelque chose que Bird a composé, ça démarre par une impro de Charlie Parker, donc je pense que rien n'avait été écrit. Mais ce qu'il faut noter, c'est quand même que Miles Davis a pris la mesure de ce que souhaite Parker, c'est-à-dire jouer le plus de notes possible. Et il faut dire que dans ce morceau-là, eh bien, il n'est pas en reste pour rivaliser avec Parker. Charlie Parker, donc, avec ce thème « Bird Gets the Worm ». On va donc terminer la séance, non pas par le thème 52e rue, qui pratiquement finissait tous les concerts de Parker en club, mais parfois également il souhaitait que ce soit fait en studio. Ici, on va donc terminer avec un blues, tout simplement, qui aura pour titre tout simplement « Blue Bird ». Thank you. Voilà, ça n'est fini pour l'année 47 avec Charlie Parker, Miles Davis, et on va donc poursuivre évidemment avec l'année 48. Mais avant cela, il faut dire que si Charlie Parker impressionnait les musiciens, les instrumentistes, il impressionnait aussi d'autres musiciens, les vocalistes. Alors, ils sont peu nombreux à avoir eu la chance de pouvoir jouer avec Parker. Il y a notamment, bien sûr, Kenny Panchoagoud, qui lui fera deux ou trois morceaux avec lui. Mais il y a un musicien parmi les nouveaux talents qui se propulsent sur le devant, qui lui est un admirateur invétéré, c'est le vocaliste Bob Dorough. Alors, lui, il va tout simplement déclarer que Parker, c'est pour eux quelque chose d'extraordinaire. Il va donc indiquer qu'à cette époque-là, nous nous nourrissions de haricots, ne mangeons plus de viande pour pouvoir économiser et nous payer le ticket d'entrée au Birdland. Nous suivions partout Parker, que ce soit en club ou en concert. Pour nous, Parker était une sorte de dieu. Nous nous entassions au sous-sol, apportant provisions, juste pour être là et écouter. Et parfois, tu avais le bonheur et la chance de pouvoir jouer deux ou trois morceaux avec Parker. Il faut dire que Bob Dorough était à la fois, certes, vocaliste, mais aussi pianiste. Il va rendre peut-être le plus bel hommage qu'un vocaliste pouvait rendre à Parker avec ce titre, Charlie Yardbird Parker Was His Name.
Sax for his axe. His improvisation was miraculous. Mastermind of rhythm was he. He blew notes that nobody'd ever heard before till then. Blues they'd never been. So often true as genius seems to be, he suffered his life through, but gave us the Yardbird Suite. All because he never stopped blowing. When he had the miserable woes, he seemed to form out his horn and make each person listening feel that he'd never known what being low down could be. He knew that low and happy music going to set him free. He blew and blew and blew until he had the changes, had the sound, he had them long before we heard him. He was just a boy in Kansas City, so pretty. After he came to New York town, all of the local jazz were listening in admiration. Long before his new sound swept round the nation, and Bird deserves the credit for the stimulating renaissance of jazz. It makes us very happy to announce a goodly portion of his best works recorded. Have a treat. Hurry right out and get yourself some Yardbird Sweet Blow.
Version should be heard. He left the world many more. And so if you're interested, listen to Bird.
Bob Doro, Charlie Yard Parker was his name. Pour être tout à fait complet, je dois vous dire que début 48, au mois de mars, eh bien, Charlie Parker va enregistrer, mais ce sera repris par le label italien Philology, et j'avoue que je n'ai pas l'album. Ça date de mars 48 apparemment. Il y aura donc le quintet de Parker qu'on a entendu. Ils enregistreront trois titres, The Way You Look Tonight, A Night in Tunisia et Groovy Night, mais désolé, j'ai pas. Donc malgré toute ma bonne volonté, je dois vous dire que l'intégrale, il y aura un trou, on n'aura pas ça. Il nous manquera trois titres sur à peu près 500. Voilà, c'est comme ça, c'est voilà, hein, je vous dois la vérité. Mais ne vous inquiétez pas, on va retrouver Parker, cette fois-ci au mois de juillet 1948. Le 6 juillet, donc, en 48, Charlie Parker est au Onyx Club, donc un club de la 52e rue, et c'est toujours le même quintet. Miles Davis, Charlie Parker, Duke Jordan, Tommy Porter, Max Roach. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, on va quand même procéder à des enregistrements qui sont pas vraiment pirates, mais qui sont d'une telle mauvaise qualité qu'on peut les considérer comme pirates. Et pourtant, le label qui va souhaiter les rééditer, c'est quand même le label Prestige. Alors donc, on entame là la qualité la plus mauvaise d'enregistrement de Charlie Parker et Miles Davis, mais l'intégrale, c'est ainsi, il faut tenter de tout avoir et de tout passer. On va commencer donc avec ce thème de Charlie Parker, Shaw and Neuf. Charlie Parker, donc au Onyx Club. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, le quintet de Parker est vraiment reconnu par tous. On peut dire qu'il joue pratiquement dans tous les clubs à différentes périodes, des engagements de un soir, deux soirs, parfois une semaine. Ça dépend à la fois et de l'humeur du patron du club, de la tolérance qu'il a vis-à-vis des incartades de Parker, ou également des décisions de Parker de jouer ou pas jouer. C'est un peu aussi la période de vache maigre, il faut dire, parce que les musiciens sont confrontés à deux problèmes. Tout d'abord, pas d'engagement d'enregistrement pour le quintet de Charlie Parker. Et puis surtout, le deuxième, c'est quand même le commencement du déclin de la 52e rue. On va quand même écouter un deuxième titre d'aussi mauvaise qualité que le premier. C'est « Out of Nowhere ». Thank you. Out of Nowhere, on dit que c'est en direct du Onyx Club, rien n'est moins sûr, puisque à l'époque, un peu, tout a été fait avec les enregistrements de Parker, on a essayé de les dater au fur et à mesure des connaissances qu'on a pu avoir, mais évidemment, rien n'est moins sûr, si ce n'est la participation des musiciens que je vous ai cités. Et il faut dire qu'à cette époque-là, eh bien, Charlie Parker va semer le trouble un peu dans le quintet. En effet, on ne saura jamais, lui, quelle rémunération il obtient lorsqu'il fait un engagement, lorsqu'il va signer donc avec un patron de club. Tout ce qu'on a pu savoir, c'est qu'à l'époque, eh bien, pour des raisons que seul Parker pouvait juger, eh bien, Miles et Max Roach sont rémunérés $135 la semaine, alors que Duke Jordan et Tommy Potter, eux, $35. Alors je vous dis, évidemment, ça crée un petit trouble dans le quintet, parce que d'aucuns ne comprennent pas pourquoi. Et en plus de cela, Miles Davis commence à avoir pris de l'assurance, et puis il n'est pas très content. Il n'est pas content, Miles, parce qu'il trouve que Duke Jordan n'assume pas le boulot comme il voudrait, et il préférerait bien sûr que ce soit John Lewis. Mais John Lewis, à cette époque-là, certes, il joue avec Miles dans des jam sessions, mais aussi il fait partie, non pas encore du MJQ, mais il travaille déjà avec Mick Jackson. Jordan et Mick Jackson, Baggy Eyes. Alors, à cette époque-là, donc, Duke Jordan, dont je vous parlais avec un peu cette espèce d'antagonisme latent avec Miles Davis, c'est bien, lui aussi, bien sûr, il joue avec Parker et il est ravi, mais il joue aussi avec d'autres, et pas des moindres, parce qu'il va jouer avec un musicien qu'on a quelque peu oublié, et c'est bien dommage, un musicien blanc, qui vraiment, on a souvent estimé que Lee Konitz, c'était peut-être le musicien blanc qui se rapprochait le plus du jeu de Parker. Je pense qu'on a certainement omis de signaler ce musicien, Alan Eager. Et on va le retrouver, donc, Duke Jordan avec Alan Eager. Il va indiquer, Duke Jordan, quand même, qu'à cette époque-là, ce n'est pas le meilleur souvenir de sa vie. Parce que, outre les différences qu'il confronte à Miles Davis, eh bien, il va déclarer, où que nous allions, les pourvoyeurs de cam étaient là. Bien sûr, il souhaitait fournir la cam à Parker, lui déclarant « j'ai quelque chose de bon », appelant Charlie Parker parfois à l'hôtel à 5h ou 6h du matin, et Parker partait avec eux. Il revenait 12 heures après, incapable de jouer. Il est vrai qu'à ce moment-là, dans le quintet, c'est pas vraiment l'enthousiasme fou de jouer, et ça se ressent peut-être un peu dans ces choses que vont développer après des musiciens dans le Onyx Club, au Freelance et autres. Pour l'instant, donc, on va retrouver Duke Jordan avec Alan Eager avec ce team, And That Is For Sure. Duke Jordan piano, Alan Eager dans sax ténor et Derek Gibbs au vibraphone. C'était donc And That Is For Sure. On va poursuivre donc la séance pour la terminer, si je puis dire, avec les réflexions que va décider de déclarer effectivement Bud à Miles. Eh bien, il va lui dire tout simplement, écoute, Miles, je t'aime bien, t'es bien gentil, tu joues bien, je suis content que tu joues avec moi, mais ici, c'est moi le patron, c'est moi qui choisis les musiciens, et si par hasard, tu trouves que c'est pas bien, eh ben, tu vois, à la porte, tu prends et tu vas jouer ailleurs. Donc, c'était ça un peu le climat du quintet. Alors, je vous l'ai dit, on va retrouver le quintet dans les enregistrements du Onyx Club, donc du 6 juillet 1948, avec le thème « Hot House ». Thank you. Courthouse, donc par le quintet de Charlie Parker en direct du Onyx Club le 6 juillet 1948. Ces enregistrements de très mauvaise qualité ont été réalisés par deux fanatiques de Charlie Parker, évidemment, et notamment Bob Gee et Jimmy Knepper dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien, Knepper qui sera d'ailleurs le futur tromboniste de l'orchestre de Mingus un peu plus tard. Mais les enregistrements ont été faits, je pense, avec un seul micro tendu à bout de bras devant la scène, dont la prise de son, c'est vraiment d'une qualité médiocre. Mais ça reste un témoignage de ce que faisaient Parker et Miles Davis à la fin de cette année 1948. Et par conséquent, on va quand même, à cette époque-là, puisqu'on est en direct et en live, on va terminer, bien sûr, la session avec le célèbre thème, 52e Street Theme. Charlie Parker, 52e Street Theme. Alors, à cette époque-là, eh bien, le quintet, je vous l'ai dit, il vacille pas mal, hein, parce que tout semble un peu se disloquer, on sent que la rupture est proche, et c'est la raison pour laquelle eh bien, Charlie Parker va tenter malgré tout de terminer un peu en beauté cette année 1948, parce qu'il a des contrats à remplir, notamment des engagements avec les patrons de clubs, et il va donc tout simplement continuer à tenter de sauver ce qu'il peut faire avec les frasques qu'il gère lui-même, qu'il engendre lui-même, créant une tension au sein du groupe, parce que le comportement de Parker est tellement erratique et on ne sait jamais ce qui va se passer, que les musiciens craignent surtout de ne pas être payés. Parce qu'à un moment, la situation est telle, avec Parker, que les patrons de club ne le payent plus avec un engagement. Il le paye uniquement lorsqu'il vient jouer. Et par conséquent, s'il ne vient pas, les autres musiciens sont là et eux ne sont pas payés non plus. Donc, gros problème parce que Parker demeure Parker et en fonction de ce qu'il a fait la veille, eh ben, il vient pas, il joue pas, il s'endort sur scène. Donc, à cette époque-là, les patrons, même s'ils adorent Charlie Parker et savent que lorsque Parker joue, le club est plein, ils prennent le risque aussi d'avoir un club vide. Parce que les musiciens, eux, sans Parker, ne sont pas capables en quartet de jouer. Malgré tout, on va retrouver cette fois-ci Parker à nouveau avec le quintet, à la différence près que cette fois-ci, ce ne sera pas Duke Jordan qui sera au piano, mais ce sera donc Tad Damron, Coco.
Thank you.
Charlie Parker dans Miles Davis, Coco. Alors, je vous disais que certains patrons de clubs sont très méfiants vis-à-vis de Parker et justement, certains vont prendre des décisions qui aujourd'hui paraîtraient totalement absurdes, même inapplicables. Le patron du Free Youth, eh bien, il va tout simplement demander au portier de surveiller Parker. Il a un job, d'une part, de sélectionner un peu le public qui va rentrer, mais il a un autre job dédié uniquement à Parker, c'est cette fois-ci de l'empêcher de sortir pour qu'il n'aille pas se fournir en cam. Il a aussi un autre job, c'est que chaque fois que Parker est prévu pour une session, ne sachant pas si Parker viendra avec ou sans son sax, eh bien, le portier doit aller chez le prêteur sur gage chercher un sax. Il va donc l'emprunter pour la soirée et il va le ramener le lendemain matin. Et voilà comment un peu, évidemment, le quintet, on ne peut pas dire que ce soit les heures, c'est les heures de gloire musicalement, mais malheureusement, ça ne l'est pas du côté financier pour tous les musiciens. Alors Miles commence à comprendre que lui aussi a acquis une certaine notoriété et par conséquent, il se dit que peut-être, il faudrait envisager de faire autre chose. Mais c'est vrai que sans Parker, Miles, il a encore peu de choses. Mais l'année 49, ce sera l'année de la révolution qu'il va apporter, Miles, dans l'histoire du jazz, avec, évidemment, vous le savez, l'album Birth of the Cool. On n'en est pas encore là. Et pour l'instant, on va donc continuer parce que le patron du label Savoy, eh bien, Herman Lubinsky, lui, il sait qu'il doit continuer à enregistrer. Il avait bien compris que Miles et Max allaient quitter le groupe. Mais avant cela, il décide donc d'enregistrer encore autant que possible et autant que faire se peut le quintet. Deux dates seront prévues pour enregistrer, 8 titres. Le 18 décembre, la brouille avec Miles Davis est perceptible parce que il y aura 4 enregistrements, comme à chaque fois, mais Miles ne sera présent que sur 3. Il y aura donc un thème sur lequel Charlie Parker a décidé que Miles ne jouerait pas. On va donc retrouver cette séance du 18 septembre 1948 et on va commencer avec le thème Barbados. Charlie Parker, Miles Davis, Barbados. On va poursuivre évidemment cette séance du 18 septembre. Avec, il y aura encore 2 titres enregistrés et notamment un thème que Charlie Parker reprendra fort souvent, Ce thème, c'est « Ah le chat », et un thème qui convient parfaitement au jeu de Miles Davis, qui est presque autant mis en valeur que Charlie Parker dans ce thème-là. Charlie Parker, donc, avec ce thème « Ah, le chat ». Et puis, je vous l'ai dit, donc, Miles ne jouera pas sur le troisième titre « Parker Moods », parce que bien Charlie Parker a décidé que ce serait en quartet, sans Miles. Par contre, il sera présent pour le dernier titre enregistré « Constellation », avec lequel on va d'ailleurs se quitter. Thank you.